Dans le Nord-Pas-de-Calais, de nombreux bénévoles s'ajoutent aux professionnels pour aider les exilés. Samedi 3 février, des membres du collectif Migraction ont organisé une réunion d'information publique à Mont-Saint-Éloi, une commune près d'Arras. Accueillir des exilés, pourquoi, comment, l'occasion pour les personnes présentes de poser leurs questions, de s'informer, mais aussi de témoigner. Pas loin de 13 associations étaient présentes, dont Migraction, Eux c'est nous, la CIMAD, la BRIC, le Secours catholique ou la Voix des réfugiés. Rencontre avec Mireille et Gilles, membres du collectif Migraction, à propos de cet événement.
On voulait rencontrer de futurs bénévoles, parce qu'on n'est pas trop nombreux à Migraction. Et puis de fil en aiguille, on a fait appel aux autres associations. Donc ça permet au moins de les connaître, parce qu'en fait, on ne savait pas ce qui se faisait tout autour.
Je peux ajouter que quand je suis allée au Café des Migrants, celui qui est responsable du café m'a dit « mais c'est bien de faire se rencontrer des associations qui sont bienveillantes par rapport aux migrants ».
Cette volonté aussi de rechercher des bénévoles, est-ce qu'elle n'est pas aussi due peut-être à un épuisement des bénévoles qui sont déjà présents? Trop de tâches, trop d'actions en fait?
C'est sûr que s'il y a plus de bénévoles, ça permet de partager ce qu'il y a à faire. Mais ce qu'on demande à Migraction, ça peut être quelque chose de très ponctuel, comme une conduite, une fois par mois, une fois par an. Enfin, c'est pas du tout prenant. Maintenant, c'est sûr que plus on est nombreux, plus c'est facile. Parce que ce qui est épuisant, c'est de se dire « bah oui, mais alors on va être obligé de supprimer l'hébergement parce qu'on n'a pas de chauffeur ». Ça, c'est vraiment non seulement épuisant, mais triste, quoi.
Moi, je crois que le problème des bénévoles, effectivement, il peut y avoir de l'épuisement. Par contre, il n'y a pas d'épuisement des migrants, puisque quand il y en a qui ont réglé leurs problèmes, soit en France, soit en passant en Angleterre, après, il y en a d'autres qui arrivent et puis… Il n'y a pas de solution. Et est-ce qu'il peut y avoir des solutions? Et nous, on n'est pas dans le cadre de professionnels, on est uniquement dans le cadre de la bienveillance vis-à-vis de gens. Je ne sais pas si on a besoin de bénévoles, on a besoin de gens bienveillants. Voilà. Que ce soit dans la rue, instantanément, on est dans un café, s'il y a un migrant, on a le droit de lui adresser la parole, comme on a le droit de s'adresser la parole les uns les autres. Voilà. Pour moi, c'est plus… une attitude à avoir qu'une action à avoir.
Sur les actions qui ont été présentées, on peut parler un petit peu des week-ends. Qu'est-ce que c'est un drive? Comment ça se passe un accueil?
Mais la toute première chose, c'est d'aller chercher les migrants, donc il faut des chauffeurs. Le chauffeur, il a une charte. Et puis, ceux qui distribuent, si on peut dire, les migrants, font attention à la personne qui conduit. Par exemple, moi, la première fois que j'y suis allée, il y a un des dispatchers qui a amené les deux migrants et puis qui a dit « c'est une femme, tu les respectes, etc. » Alors après, quand on arrive chez l'hébergeur, l'hébergeur, il a préparé un certain nombre de choses. Je crois qu'il faut un moment pour que les migrants se détendent. Ils sont plus ou moins confiants, mais on les sent quand même un peu crispés. Parfois, ils savent pas trop où ils tombent. Alors, si c'est leur deuxième, leur troisième accueil, ça va. Mais si c'est la première fois, c'est un peu inquiétant pour eux. Et puis, petit à petit, on les voit se détendre. Alors, comment ça se passe? La première chose, c'est qu'ils ont sommeil. Ils ont faim, parfois. Alors, on commence par la douche parce que, ça fait du bien aussi. On leur propose un petit repas rapide. Et puis après, souvent, c'est une après-midi de sommeil. Après, c'est aussi selon leurs besoins. Il y en a qui ne dorment pas, qui ont envie d'aller se promener, qui ont alors volontiers aussi du foot, si on a une possibilité. Moi, là où j'ai hébergé, on a rencontré des jeunes. Et des jeunes garçons et filles qui ont accepté de faire un match de foot avec les migrants. Et les migrants ont été distribués, mais vraiment dans les deux équipes. Le chef d'équipe de chaque côté a choisi des garçons et des filles, des migrants et pas des migrants. C'était trop beau. Voilà, alors après, que raconter du reste de la journée? Ce qu'il y a surtout, c'est que le week-end a deux nuits. C'est-à-dire qu'on les ramène le lundi matin pour qu'ils aient vraiment le temps de se poser. Alors bien sûr, on lave leurs vêtements, il faut qu'on ait des vêtements de rechange pendant ce temps. S'ils ont vraiment des besoins, on essaye de les faire partir avec des chaussures qui ne sont pas trouées, etc. Bon, dans la mesure de nos possibilités. Après, pour la nourriture, on fait attention aussi, parce qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas manger, quoi. C'est vraiment pas leur truc. Voilà, donc on essaye d'adapter. Et puis, souvent, ils mettent la main à la pâte eux-mêmes, ils sont contents de cuisiner un petit peu.
Il faut imaginer que c'est des gens qui sont partis de leur pays. Il y a peut-être une barrière de la langue aussi, quand ils arrivent chez des inconnus, peut-être pour passer un week-end aussi. Donc, il y a forcément un petit temps d'adaptation.
Bah, la barrière de la langue, elle est souvent complète, parce que aller dire qu'ils parlent français, moi, depuis deux ans, j'ai eu un Tchadien qui parlait français, il parlait bien. Anglais, bon, ils disent qu'ils parlent anglais, mais la plupart du temps, ils ne comprennent rien. Pour les gens qui accueillent, ils utilisent Google Traduction, c'est efficace. Bon. Donc la barrière de la langue, certes, elle existe. Hein.
On parlait d'actions bienveillantes. Mireille, par exemple, vous aider pour les week-ends, ça peut juste être faire un drive un coup de temps en temps.
Bien sûr. Alors, on a un groupe WhatsApp local. Si on y est inscrit, on peut être attentif aux besoins. Sinon, il y a une fiche d'inscription et on peut s'inscrire pour tel week-end, se proposer comme chauffeur ou évidemment comme hébergeur aussi.
Quand on est chauffeur, on n'est pas chauffeur forcément deux fois. Moi, personnellement, je fais jamais l'aller. Je fais surtout le retour. Sachant que le lundi, c'est peut-être plus difficile de trouver des chauffeurs que le samedi parce que les gens travaillent. Voilà. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Je fais le retour. Alors, bah, quand je suis en vacances, bah, je suis en vacances. Quand je suis pas dispo, je suis pas dispo. Puis quand je suis dispo, bah, je le dis. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Est-ce qu'on peut parler peut-être aussi d'autres solutions d'hébergement comme le maquis ?
Alors, le maquis, en fait, c'est un hébergement qui permet à 8 migrants, à 8 exilés, de se reposer le week-end. Ça a été proposé par la Ligue de l'enseignement à Lille. Ils proposaient aussi un local à Arras à la même période. Mais nous étions tellement peu nombreux que c'était inenvisageable. Alors, c'est quoi le maquis ? Alors, le terme maquis, eh bien justement, il nous renvoie à l'esprit de Migration 59. Il ne s'agit pas simplement d'être bienveillant. Bien sûr, il faut être bienveillant, mais c'est un acte de résistance contre ce qui se fait à l'encontre des migrants, justement. J'aime beaucoup ce que dit Sophie. Elle fait la différence entre héberger et accueillir. L'accueil, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et d'autre part, c'est un acte politique dans son origine, dans son esprit. C'est-à-dire qu'il s'agit non seulement d'aider les migrants, mais aussi de dire non, on n'est pas d'accord avec ce qui se fait.
Je voudrais qu'on parle peut-être rapidement d'une autre action qui sert, elle, plutôt à éveiller les consciences des passants, des gens qui pourraient rencontrer les bénévoles, les membres du collectif. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des cercles du silence ?
Moi, j'y ai été personnellement deux, trois fois, pas beaucoup plus. Alors, en fait, le cercle du silence, ça paraît un petit peu curieux parce que, à part lire une pancarte, vous n'aurez pas beaucoup d'explications sur ce que font les gens. Voilà. Par contre, comme c'est fait place Foch et puis que c'est dans un endroit de passage, les gens passent et sont, je dirais, interpellés par des gens qui font rien, qui ne bougent pas, qui ne parlent pas. Voilà. Donc après, libre à eux de regarder et puis quel est le résultat exact ? C'est pas facile. Hein, ce qu'ils font régulièrement, est-ce qu'ils se sont des fois renseignés sur l'impact ? C'est vraiment un acte gratuit, à mon avis. Mais ça ne veut pas dire que ça n'interpelle pas.
Il y a d'autres actions qui éveillent, qui sont faites dans les lycées, dans la mesure où les lycées acceptent aussi, parce que ce n'est pas toujours le cas. Alors, je ne sais plus, mais il me semble qu'il y a deux associations qui nous en ont parlé. Eux, c'est nous, qui a une branche migration, a aussi une branche éveil dans les lycées, sensibilisation. Et puis, alors, est-ce que c'est la CIMAD ? Je ne sais plus.
Eux, c'est nous, sont sur la région de Montreuil.
Surtout, oui.
Ouais, voilà. Et puis, il y a la CIMAD. Oui, je pense que la CIMAD a des...
Des actions de sensibilisation,
oui.
On est toujours avec Mireille et Gilles, membres du collectif Migraction. On parle avec eux de la réunion d'information publique du samedi 3 février, qui avait pour thématique l'accueil des exilés, mais aussi des actions qui sont mises en place par les différentes associations d'aide aux migrants.
Donc Migraction est née en 2018, et c'est Sophie qui se disait « mais que peut-on faire ?» Alors Sophie est professeure de philosophie, et cette réflexion, elle a fait tout un travail sur un travail de terrain. D'ailleurs, il y a un livre en rapport avec ça qu'elle a écrit. Elle s'est dit, mais on ne peut pas laisser faire ça. Donc, c'est une philosophie engagée, là, sur le terrain. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ne pas laisser ces migrants de Calais qu'elle avait rencontrés plusieurs fois dans le train? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Alors, en Belgique, il y avait déjà ça, un accueil de week-end. Et elle a décidé de lancer la même chose. Elle a eu beaucoup d'amis autour d'elle. Et c'est parti sur la métropole lilloise. Et puis, progressivement, eh bien, ça s'est répandu dans Boulogne, Campagne-les-Aidins, Arras, voilà. Pour revenir à ce qui se passe à Lille, il y a des actions de formation qui sont menées par Migraction, par Sophie. Alors, malheureusement, pour nous, c'est un petit peu loin. Mmh. Pendant les week-ends aussi, il y a des fêtes qui sont proposées. C'est une très, très bonne idée. Mmh. Et bon, ben, pour nous, il faudrait peut-être inventer quelque chose sur Arras. Mais pour le moment, on est trop peu d'accueillants pour faire quelque chose. Bon, bien sûr, le week-end, on peut toujours sortir. Michael, qui est un de nos hébergeurs les plus réguliers, les amène chaque fois sur la place des Héros. Et oui. Ils admirent Arras, mmh, la ville. Mmh.
Mais en général, les hébergeurs disent que ce qu'ils veulent, c'est vraiment un temps de calme, un temps de repos, un temps au chaud et au sec. Quand on les redépose le lundi, il y a des fois de quoi pleurer, hein, parce que quand on les voit manger accroupis dans les flaques d'eau, c'est quand même pas normal comme situation pour des humains, on les traite pas bien.
Oui, ils sont heureux aussi d'avoir une liaison Wi-Fi pour pouvoir communiquer entre eux, communiquer avec leur famille, etc. Mmh. Et une des choses dont ils ont besoin, ça paraît bizarre, mais c'est d'un téléphone. Ah oui. Parce qu'on pourrait dire, c'est en plus le téléphone, mais non, parce que c'est quand même vital pour eux, vital pour communiquer entre eux, vital pour essayer de contacter de nouveau leur famille. Voilà. Alors si on pouvait trouver une source de téléphone, ça serait bien.
Depuis tout à l'heure, on parle des migrants, on parle aussi jungle de Calais. Pendant la réunion, moi j'ai entendu parler des ninis, des invisibles. Vous pouvez m'expliquer un peu qui sont-ils ?
En fait, quand un migrant arrive en France, il demande un titre de séjour. Le titre de séjour, il y a l'OFRA qui va émettre un avis sur la personne. Alors elle est admise ou pas admise. Souvent elle n'est pas admise. Et puis après, les gens, les migrants, font une demande d'asile et passe dans des organismes, mais attention, entre le début puis passer à la Cour nationale des demandeurs d'asile, il peut se passer un an ou plus. Et puis après, la Cour nationale des demandeurs d'asile, elle en déboute peut-être 8 sur 10. Donc les 8 sur 10 reçoivent ce qu'on appelle un OQTF, un ordre de quitter le territoire français. Alors après, quand les gens ont leur OQTF, ou ils repartent, ou ils restent. Mais la plupart restent. Et donc à partir du moment où on reste avec un OQTF, on devient invisible. Ça veut dire qu'on n'a pas de papier. Ça veut dire qu'il faut se débrouiller pour loger, il faut se débrouiller pour... Voilà, donc il y a des gens, combien sont-ils, je n'en sais rien, qui sont dans la nature, sans papier, et qui se débrouillent, voilà.
Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est la façon dont ces jeunes sont dynamiques. Enfin, je dis ces jeunes parce qu'on a beaucoup, mineurs.
Des gamins. Hein.
Alors, ils sont demandeurs quand même, mais ils ont de l'énergie, ils sont joyeux, ils sont souriants. Quand on pense à tout ce qu'ils ont vécu, et quand même, ils gardent la volonté de vivre, la volonté de... ils sont toujours prêts à remercier.
C'est un sujet complexe parce qu'en fait, c'est difficile d'aller régler des problèmes par la loi de manière générale alors que c'est une somme de cas particuliers. Pour s'y retrouver là-dedans, je suis bien incompétent pour en parler.
Tout à l'heure, quand je parlais aussi d'intégration et des freins surtout à celle-ci, il y a des freins en tout cas pour l'administration et ça passe aussi par la numérisation.
La numérisation, elle n'est déjà pas simple pour les Français que nous sommes. Il y a quand même pas mal de gens qui bloquent sur des formulaires. Alors, il faut imaginer quelqu'un qui a des difficultés pour parler notre langue, puis il ne connaît pas les organismes auxquels faut s'adresser. Donc, tout devient compliqué. Alors, si en plus, de temps en temps, ça coince parce que vous n'avez pas votre dossier, il manque une pièce et puis tout, ça n'en finit pas de traîner. Faut des avocats pour régler les problèmes.
D'où la nécessité d'un accompagnement aussi.
Oui. Alors il y a des professionnels. Le CADA à Arras aide les migrants et puis vaut mieux que ça soit lui qui les aide parce que le droit des migrants, c'est des choses très complexes.
Il y a aussi toute l'aide nécessaire au niveau de l'apprentissage du français, c'est sûr. Et puis là, Françoise qui nous a parlé, la voix des réfugiés, c'est absolument génial ce qu'elle fait. Elle a une méthode pour leur apprendre à lire, à parler français. Et justement, Michael a eu une expérience. Il a essayé plusieurs fois d'utiliser la méthode de Françoise. Il l'avait vu faire. Et puis un jour, il sort avec un migrant qui ne parlait absolument pas français et qui était capable de lire dans la rue « bus ». Alors lui était ravi, mais il a été capable de lire « bus » et de comprendre ce que c'était qu'un bus. Voilà, c'était, ça donne des petites joies. Mais ce qu'on voit à Calais... Ils veulent passer en Angleterre.
Ah bon, oui, ils veulent pas apprendre le français. Hein.
Voilà, c'est vraiment une idée fixe pour eux.
Oui.
Donc, les premières fois, on est tout triste de les ramener dans l'enfer de Calais.
Oui.
Mais petit à petit, on comprend. En fait, c'est ce qu'ils veulent. Parfois même, ils repartent le lundi, avant le lundi, parce que le passeur les a appelés, etc. Voilà, ils viennent, ils sont tout heureux d'avoir ce repos, ce répit en famille. Mais l'idée, c'est de partir. Et...
Puis à la limite, quand on est rendu, je pense, à Calais, et puis qu'on vient d'Érythrée ou du Soudan ou de l'Afghanistan, on a déjà passé des étapes si difficiles, parce que traverser la Libye, ça doit être un sport. Traverser la Méditerranée, c'est un deuxième sport. C'est tout. Voilà, ils se disent... On va aller au bout. Ils veulent aller au bout. Quand certains disent qu'il y a plus de gens qui passent par camion, personnellement, je ne pense pas que ça soit vrai. Parce que ceux que je ramène souvent, je leur demande. La plupart me disent qu'ils n'ont pas de sous. Et donc, quand on n'a pas d'argent, la seule manière de faire, c'est de monter clandestinement dans un camion ou de monter dans un bateau en douze. Personnellement, la raison pour laquelle je le fais n'est pas politique, elle est quand même d'améliorer un temps ou à peu la condition humaine de ces gens. On n'a pas le droit de laisser des gens dans leurs conditions de vie, c'est pas normal. L'action qu'on fait, elle est momentanée, mais c'est bien donner du confort pendant un week-end à des personnes qui sont des personnes humaines. Voilà.
Quand tu dis on n'a pas le droit, ça serait au niveau moral davantage que politique. Mais je crois que lorsque Sophie utilise le mot politique, c'est au meilleur sens du terme.
Oui,
engagement citoyen. Quoi. Justement, on ne peut pas laisser faire ça. Donc faisons un petit quelque chose pour montrer qu'on n'est pas d'accord.
Pour terminer, peut-être un message à faire passer
À chaque fois, j'ai rencontré des gens vraiment sympas. Ils sont tous souriants. Ils ont, quelque part, ils ont foi en l'avenir. Hein, parce que faut quand même le faire, hein, partir de chez soi et puis se retrouver un an après, on ne sait pas où. C'est quand même des parcours qu'on ne conseille de faire à personne. Des jeunes, souvent pleins d'énergie, ils ont foi en l'avenir.
Moi, je dirais, n'ayez pas peur. La première fois, j'avais une certaine appréhension. Et... Après, bon, de toute façon, ça aide à dépasser certains préjugés. On ne va pas régler le problème de fond. Non. Ça, on n'y peut rien. Ça nous dépasse.
Oui, oui.
Mais par contre, on ne peut pas laisser ces personnes dans ce qu'on appelle une jungle, comme si c'était des animaux. Non, ce sont des êtres humains et qui ont leur beauté, leur profondeur.
Oui.
Voilà, donc acceptons de les aider, essayons, ça vaut le coup.
C'était un entretien avec Mireille et Gilles, membres du collectif Migraction, à propos d'une réunion d'information publique qui s'est tenue samedi 3 février à Mont-Saint-Éloi, une commune près d'Arras, à l'initiative du collectif Migraction, et qui avait pour thématique l'accueil des exilés.